Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, fête de l'Aïd el-Fitr, ce dimanche par tous les musulmans du monde entier, marquant ainsi la fin du mois de Ramadan. À cette occasion, ici à Kinshasa, le vice-ministre de la Justice a remis des vivres aux musulmans d'une dizaine de mosquées de la ville. Ces dons sont constitués notamment des sacs de riz, des sucres, des farines, des maïs et de l'argent. Le coordonnateur du service de la protection civile de Beni au Nord Kivu appelle les habitants vivant dans des endroits les plus menacés ou exposés aux catastrophes naturelles à quitter ces milieux en ces débuts de la saison pluvieuse afin d'éviter le pire. Jean-Paul Capitula s'est adressé ainsi ce samedi au chef de quartier de la ville. La situation sécuritaire dans le territoire de Djouganitori reste marquée par les affrontements récurrents entre les troupes de l'armée ougandaise et la milice Codeco dans la région de Fataki. Ces conflits armés accentuent les tensions entre certaines communautés locales. Nous en parlons avec notre invité Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Le vice-ministre de la Justice a remis ce samedi des vivres aux musulmans d'une dizaine de mosquées de la ville de Kinshasa. Samuel Mbemba a posé ses gestes dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des jeûnes du mois de Ramadan. Ces dons sont constitués notamment des sacs de riz, des sucres et des farines de maïs, ainsi que des sommes importantes d'argent dont le montant global n'a pas été révélé aux médias. Samuel Mbemba explique le sens de son geste au téléphone de Planté Yambenga.
Nous sommes au dernier jour de Ramadan, ici au camp Luka. Nous avons 13 mosquées qui sont tenues par mes frères de la religion musulmane et soutiennent mes initiatives politiques dans ces coins de la capitale. Nous avons l'habitude de se rencontrer et de trouver des solutions à chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux dans les quartiers camp Luka et ses environs. Je suis venu aussi les voir et leur remettre des vivres et non vivres pour leur permettre de clôturer le mois de Ramadan en beauté. Au nom d'Allah et du prophète Mahomet.
Nous le disions tantôt, les habitants de la ville de Beni au Nord Kivu, qui ont construit dans des endroits dangereux et exposés aux catastrophes naturelles, doivent s'éloigner de ces milieux en ces débuts de la saison des pluies. Cet appel est de Jean-Paul Capitula, coordonnateur du service de la protection civile, adressé samedi à une trentaine des chefs de quartier et des bases de la commune de Beou. Selon lui, c'est pour éviter les incidents graves. À cette même occasion, Jean-Paul Capitula invite les habitants à la vigilance et à rapporter toutes les situations inhabituelles, notamment des vents violents au service de la protection civile. Il explique au micro d'André Kitenge.
La population doit avoir la culture d'écouter, mais aussi de comprendre que les endroits qui sont réputés plus dangereux doivent être vraiment éloignés de la population, c'est-à-dire des habitations. À ceux qui sont dans des endroits les plus menacés ou exposés aux menaces de catastrophes, la première chose, c'est de leur demander d'être vigilants et de communiquer à tout moment c'est que eux pensent ne pas comprendre. C'est-à-dire quoi? S'il y a un vent violent et qu'il arrive que cela est récurrent dans une zone, il faut vite informer les services habilités, c'est-à-dire la protection civile. Donc, lors des saisons pluvieuses que nous allons devoir commencer, nous demandons à la population de pouvoir s'éloigner des endroits les plus menacés. Ce qui persiste dans des endroits de risque, je crois que ils doivent savoir que résister dans un endroit dangereux, c'est s'exposer à la mort, c'est s'exposer aux incidents graves.
Province du Tanganyika, la société chinoise GLC dénonce ce qu'elle qualifie d'agression de ses travailleurs par certains militaires des FARDC. Cette société chinoise qui produit du ciment dans la cité de Kabimba, dans les territoires des Kalemie, le fait savoir dans une correspondance adressée à l'administrateur du territoire jeudi dernier. Correspondance parvenue à Radio Kapi hier. La société GLC demande à l'autorité du territoire d'assurer la sécurité de ses travailleurs et de leurs biens. En réaction, le commandant des FARDC dans les Tanganyika promet de vérifier ses allégations, nous dit Paul Emunanga.
Dans cette correspondance, GLC annonce avoir reçu la plainte de 13 de ses travailleurs au sujet de l'agression dont ils font l'objet de la part de certains militaires des FARDC. La correspondance précise que les militaires ont agressé les travailleurs qui revenaient du service et ont ravi des sommes d'argent et d'autres biens des valeurs. D'après la société GLC, en plus de ces actes, d'autres militaires ont envahi les alentours des logements réservés au personnel expatrié, dont des Chinois, en faisant des incursions dans cette concession. Et d'ajouter que d'autres militaires se permettent de s'introduire illégalement dans l'usine. Face à cette situation, GLC demande à l'administrateur du territoire de Kalemi d'assurer la sécurité de ses travailleurs et de leurs biens. Contacté par Radio Okapi, le commandant de la 22e brigade des FRDC dans le Tanganyika fait savoir qu'il n'est pas informé de ces dossiers. Le général Fabien Dunia Kashindi promet de vérifier ces allégations et demande à GLC de s'adresser directement aux responsables de l'armée. Radio Okapi a tenté en vain de joindre l'administrateur du territoire de Kalemi.
Merci à vous, Paulin Munanga, pour toutes ces explications. Restons dans la province du Tanganyika pour vous dire que la recrudescence du banditisme urbain à Kalemi est due notamment à la présence dans la ville de plusieurs évadés de la prison centrale de Kalemi et des militaires qui ont fui au front dans les Kivu. Propos du maire de Kalemi à la presse le vendredi. Cependant, l'autorité urbaine rassure la population que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Les propos de David Moukebambombo, maire de Kalemi, sélectionné par Paulin Munanga.
Par rapport à la situation sécuritaire dans la ville, je pense bien que nul ne l'ignore. Les efforts fournis par le gouverneur et la mairie et les services de renseignement, la police et consorts avaient déjà produit des fruits. Vous aviez tous constaté que la criminalité avait sensiblement diminué. Mais il y a un phénomène qui a fait rebondir encore l'insécurité dans la ville de Kalemi, c'est l'évasion des prisonniers de Kalemi. La plupart des prisonniers évadés sont revenus encore sur terrain. Or, nous étions déjà en mesure de gérer nos bandits urbains habituels. Nous les avions déjà bien matés, maîtrisés. On avait déjà diminué sensiblement cette insécurité. Mais lorsqu'il y a eu évasion, voilà que ceux-là sont venus encore s'ajouter à nos bandits urbains que nous avions. Et les militaires qui ont fui au front sont venus aussi s'ajouter à Kalemi. Tout ça, c'est ça qui a augmenté encore l'insécurité dans la ville. Mais nous n'allons pas baisser nos bras. Nous allons nous lever encore pour essayer d'éradiquer cette insécurité.
Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Kwilu est appelée à doter cette province de beaucoup d'édits pouvant lui permettre d'avoir des ressources financières capables de reconstruire la province. Appel lancé par le nouveau président de cet organe délibérant à l'occasion de son premier discours après son élection le vendredi. Claude Kumpel Mpassi invite aussi l'exécutif provincial en place et celui qui sera élu le 2 avril à œuvrer pour le bon fonctionnement de la Direction générale des recettes du Kwilu de Jerek afin de maximiser des recettes provinciales capables de booster le développement de la province. Claude Kumpel Mpassi l'a dit à Irène Mbomalozolo.
Pour un grand peuple, quand il n'a pas de moyens, il les crée. L'attente de la rétrocession ne doit pas condamner à rêver à nos solutions plutôt qu'à travailler pour résoudre nos problèmes. C'est déjà dans cet esprit que notre Assemblée provinciale doit doter la province des édits dans différents domaines des marchés publics en examinant scrupuleusement dans les compétences réservées aux provinces la possibilité d'avoir des ressources additionnelles. En plus, m'est-il permis de recommander solennellement au gouvernement provincial en place et à celui qui doit venir après les élections des gouverneurs des provinces de s'investir sérieusement afin que la Direction générale des recettes du Kwilu puisse fonctionner avec efficacité pour examiner les recettes provinciales et locales. Je mets en garde, sous peine de poursuites judiciaires, toute personne, auteur, tout comme complice soit-il, tentera de détourner même un franc congolais de la recette due à la province. Sa place, c'est la prison.
On enchaîne avec les Nord Kivu, où les enseignants d'au moins 4 sous-divisions du territoire de Rutshuru expriment leur mécontentement face au non-paiement de leur salaire pour les mois de février et mars. Ils jugent inacceptable de n'avoir pas perçu jusque-là leur rémunération, alors que le gouvernement a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour leur paiement par la Caritas via Mobile Money. Ces enseignants affirment avoir accompli toutes les formalités requises pour le transfert de leur salaire par cette nouvelle voie, compte tenu de la fermeture des banques à Goma. Les autorités scolaires provinciales appellent les enseignants à la patience, assurant qu'une solution est imminente. Les détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
L'incompréhension règne chez les enseignants de Rutshuru. Si le gouvernement fait le nécessaire, pourquoi la Caritas tarde-t-elle à payer leur salaire? deux mois impayés, c'est trop, confie l'un d'eux sous anonymat.
Alors que le directeur chargé de suivi Paix Kinshasa fait savoir que le gouvernement a déjà fait sa part. Nous avons complété les fiches déjà un mois sans suite. Nous sommes délaissés. Raison pour laquelle nous, enseignants, territoire de Rutshuru, nous vivotons. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Déjà deux mois, bientôt trois mois impayés, alors que les autorités ont déjà fait leur part.
En réponse à ces préoccupations, les directeurs de la province éducationnelle du Nord Kivu 1 expliquent que l'équipe de la Caritas était en mission à Inongo. Désormais de retour à Goma, la priorité est la finalisation des paiements par mobile money pour les enseignants de Rutshuru et Masisi. Luc Baweza ajoute que la BOA et Access Bank, chargés du paiement des enseignants de Goma et Nyiragongo, paieront également via Mobile Money. La procédure est en cours et ce responsable précise que des notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants.
Autre aspect d'actualité sur la radio de la paix, la coordination nationale du programme de mise en valeur des zones des savanes et des forêts dégradées s'est dit satisfaite des activités des alliances productives sur le terrain. Ces dernières sont formées d'un opérateur économique porteur du projet qui travaille avec des organisations paysannes. Dans la Tchopo, ces projets consistent en la plantation des cacaoyers et des palmiers à huile. Les faiblesses et les points forts de la mise en œuvre de ces projets ont été portés à la connaissance du gouverneur des provinces le samedi. Objectif solliciter de sa part une forte implication en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Jacques Mkonkole.
Au terme de cette phase pilote, la mission conjointe d'évaluation dit avoir constaté certaines faiblesses. Néanmoins, elle souligne globalement sa satisfaction par rapport aux résultats déjà enregistrés. Willy Makiadingunzo, coordonnateur national du programme de mise en œuvre des zones de savanes et forêts dégradées.
On voit très bien qu'ils sont en train d'aller vers les objectifs fixés. C'est-à-dire que d'ici mois de mai, on doit arriver à transplanter plus de 80% des 3511 hectares. Donc, on a constaté que beaucoup d'entre eux, ils travaillent dans ce sens-là. Ils sont dans la bonne direction. Alors, ceux qui ont des petits soucis, on a mis en place un suivi rapproché.
Outre l'appui financier des CAFI et Fonared, à travers le ministère de l'Agriculture, les agriculteurs de la Tchopo sollicitent une plus grande implication du gouvernement provincial, notamment en mettant un terme aux tracasseries. Charles Balekage, représentant du porteur du projet Alliance Productive, Chambani Mali.
Le mouvement des agriculteurs sur nos routes, nous remarquons qu'il y a un peu plus de tracasseries. Il serait intéressant que nous soyons un peu accompagner et avoir un peu d'appui pour nous permettre de vaquer à nos activités sans beaucoup de difficultés.
Tout en félicitant les uns et les autres pour la réussite de cette première phase, le gouverneur des provinces, Paulin Lendongolia, leur a promis tout son soutien. Il fera ce qui est à son pouvoir pour le bien-être de sa population, a-t-il souligné. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé. Dans le territoire des Bénin Nord Kivu, au moins 15 cas de rougeole ont été notifiés au cours du premier trimestre à l'orphelinat Tukinge Yatima du poste frontalier de Kassindi-Loubiria, plus précisément dans la zone de santé rurale de Mutuanga. Selon Desange Maliro, la responsable de cette orphelinat privée, la maladie risque de prendre une allure inquiétante à cause de la promiscuité dans ce centre qui héberge environ 500 enfants. Elle précise que les malades sont pris en charge par une équipe de médecins qui, malheureusement, fait face à une carence de médicaments. Elle plaide pour une assistance du gouvernement congolais et des ONG humanitaires pour faire face à cette situation.
Actualité internationale.
Au Gabon, la campagne pour la présidentielle du 12 avril 2025 a démarré hier samedi. Bien que tous les candidats n'aient pas encore jeté leurs forces dans la bataille, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a rassemblé ses partisans lors d'un meeting dans un stade de Libreville. Et au Kenya, un slogan est source de controverses. Le chant « Ruto must go » appelant à la démission du président William Ruto est né lors des manifestations antigouvernementales en 2024. Mais il continue d'être scandé dans des bars et rassemblements. C'était le cas notamment lors d'un match de football à Nairobi le dimanche 23 mars. Un slogan pointé du doigt, c'est 27 mars par le chef d'état-major des armées qui a mis en garde contre un risque d'anarchie. Depuis, les propos du militaire ont été commentés en masse et la polémique enfle.
L'invité.
La situation sécuritaire se dégrade un peu plus chaque jour dans le territoire des Djougouani-Touri. Depuis que les troupes de l'armée ougandaise combattent la milice Codeco dans la région de Fataki, la tension est montée d'un cran entre certaines communautés du territoire des Djougou. Le président de l'UNADI, entendez, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, appelle au calme. Michel Meta revient sur la situation dans cet entretien avec Sadiq Aboubakar.
Michel Meta, bonjour.
Bonjour.
La crise sécuritaire dans le territoire des Djougou a tendance à se transformer à une crise communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, avant d'adresser mon message comme président de toutes les communautés de l'Ituri, il fallait vous rappeler que la violence dans la province de l'Ituri où les tensions ont commencé bien avant, avec l'avancée de M23 à un moment donné, et puis la présence de UPDF, leur entrée dans la ville de Bounia, et aussi leur entrée dans les territoires de Maggi a créé effectivement une tension. Vous avez vu le message de certaines communautés qui... les unes ont écrit, les autres ont répondu. Et ça veut dire que ça crée déjà ces petits soucis-là entre les communautés.
Il y a quelques semaines, l'UNADI, vous avez organisé un dialogue intercommunautaire. Quel en était le résultat?
Nous avons organisé un pourparler entre les Ituriens. Et ces pourparlers ne prenaient pas toutes les communautés de la province de l'Ituri. On avait plus focalisé l'attention dans les territoires de Djougou, en prenant plus les communautés qui sont directement en contact avec les violences dans les territoires de Djougou. Et c'est dans ces quatre-là qu'on avait tenu cette activité pendant 2 jours, le 3 et le 4. Et le contenu de ces rapports existe. Je pense que c'est un rapport encore partiel parce que l'une des communautés s'était retirée, avait évoqué certaines raisons. Par exemple, la neutralisation de tous les groupes armés dans l'ensemble de la province. Il y avait une commission ad hoc qui a été constituée. À la fin, ils ont accepté de rentrer sur la table de pourparler et que nous allons continuer le travail.
Alors, vous avez évoqué une certaine tension entre quelques communautés de Djougou, où effectivement il y a depuis quelques semaines des combats permanents entre UPDF, l'armée ougandaise et une milice locale. En tant que président de l'UNADI, quel message vous adressez à toutes ces communautés-là, mais aussi d'une manière générale à toutes les communautés de l'Ituri par rapport à cette tendance?
Je crois la première des choses, il fallait d'abord condamner ces violences qui se vit dans le territoire de Djougou et particulièrement à Fataki. C'est ce qu'ils n'avaient pas souhaité et que de l'autre côté, il faut voir aussi la présence de UPDF, leur entrée avait posé déjà un problème. Et nous avions demandé à ce temps que le gouvernement, soit national, soit provincial ou soit l'armée, puisse communiquer sur l'enjeu clair de cette mutualisation de forces. Ça n'a pas été fait. Et voilà, nous nous retrouvons devant un incident à Djougou. En même temps, nous sommes en train de demander qu'on puisse neutraliser tous les groupes armés pour que toute la population de l'Ituri retrouve son calme. Alors, tous ces éléments ont créé trop de problèmes. Nous avons reçu le commandant,
chef d'état-major
général adjoint en charge de renseignement et des opérations, qui est en train de faire un travail avec toutes les forces vives, travailler pour éclairer la lanterne de la population. C'est sur ce point que nous demandons à la population d'être calme, de donner confiance à notre gouvernement, à travers notre armée. Je crois que nous devons continuer à soutenir notre armée et toutes les options qu'ils prennent pour l'intérêt de notre population, nous devons appuyer ces initiatives. Le moment est venu pour que l'armée prenne le dessus sur les groupes armés et que chaque groupe armé comprenne que ils ne peuvent pas protéger leur communauté, c'est plutôt l'État qui peut protéger les communautés. C'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Ça veut dire que personne ne peut prétendre prendre l'arme pour protéger sa famille, ses enfants, ses frères, c'est inacceptable.
Pour terminer, Michel Meta, quel message à ces communautés qui lancent des messages ou des déclarations quelquefois à tendance provocatrice?
Je l'ai dit au départ, ce qui est très important pour nos communautés d'Ituri, c'est d'abord construire cette unité et cette cohésion, on sait, de nous tous qui sommes peuple de l'Ituri. Et le deuxième élément, ce sont les groupes armés qui vivent dans nos communautés. Ces groupes armés ne doivent pas aussi prendre les communautés comme leur béquille pour faire le bêtise. Nous devons construire la paix maintenant pour la province de l'Ituri.
Michel Meta, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, C'était là le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, interrogé par Sadiki Aboubakar. Exactement 19h20 à Bounia, en Ituri. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Pierre Diassinois. À la présentation, grâce à Mzati, ce journal est à réécouter sur www.radiocapi.net. Merci.